Alors, merci d'être si nombreux à ce café scientifique. On manque de chaises, on a trouvé des solutions avec les bancs. Et par ailleurs, nous attendons encore une des intervenantes qui va arriver très prochainement. Elle m'a envoyé un SMS en me disant qu'elle était prise dans la circulation. Elle vient de la Chaux-de-Fonds, donc tout s'explique. Voilà, aujourd'hui c'est un café scientifique un peu particulier puisqu'il s'inscrit dans le cadre du printemps culturel. Vous avez tous reçu un programme du printemps culturel. Voilà, qui est consacré à l'Iran. Et vous avez toute une série de manifestations qui auront lieu jusqu'au 21 juin de cette année. Vous avez toute une série d'expositions, des expositions de photos au Théâtre du Grand Passage, une exposition de photos et de peintures au péristyle de l'Hôtel de Ville. Demain, vous avez une lecture en farsi de Dürrenmatt au Centre Dürrenmatt. La semaine prochaine, vous aurez au TPR une pièce iranienne aussi. Et puis, ici aussi, sur place, vous avez à l'étage supérieur une exposition consacrée à Mossadegh, qui est un de nos anciens étudiants, qui a fait son doctorat en droit à l'université de Neuchâtel et qui a été Premier ministre de l'Iran. Voilà, alors ne manquez pas ce magnifique programme. Et tout de suite, aujourd'hui, nous avons un café scientifique dont le thème est « Islamophobie, le racisme en toute bonne foi ». Et on va commencer malgré tout, puisque l'heure avance, et puis on continuera avec Nadia Carmous dès qu'elle sera là. Et je vous explique d'abord comment les choses vont se passer. D'abord, chacun des intervenants va se présenter. Ensuite, nous allons définir avec eux ce que recouvre le terme islamophobie. On va aussi se demander pourquoi, ici en Suisse, on peut être hostile aux musulmans en toute bonne conscience, que c'est presque parfois normal de l'être. Et enfin, quelles sont les conséquences de l'islamophobie? Alors, on va faire le tour de ces questions en 45 minutes à peu près. Et ensuite, c'est vous qui aurez la parole, c'est vous qui pourrez poser des questions et intervenir. Je vais commencer par un tour de table. Et chacun des intervenants va se présenter et dire pourquoi il est là. On va commencer par vous, Madame Demmler.
Bonsoir, je vous remercie aussi d'être si nombreuses. Je m'appelle Kerstin Dümmler et je suis sociologue de formation. J'ai entre autres étudié en Allemagne, à Dresde, donc d'où viennent mes origines, et ici aussi à Neuchâtel. Je peux directement dire mes origines de Dresde, voilà, c'est quelque chose... Dans ce thème-là, je ne peux pas être très fière parce qu'en décembre et janvier, c'était là où il y avait des manifestations de Pegida qui avaient ses origines et étaient plus fortes. Donc, c'était des manifestations contre l'islam hein, qui ont maintenant un peu baissé, mais voilà, qui sont toujours là. Je travaille actuellement à Lausanne dans une haute école dans le domaine de la formation professionnelle où je mène des projets de recherche avec des jeunes sur l'apprentissage, mais aussi la diversité. Et en fait, je suis invitée ici aujourd'hui parce que j'ai mené entre 2007 et 2012 une recherche ici à l'Université de Neuchâtel, ensemble avec d'autres collègues, la professeure Janina Hinden, Joël Moret, mais aussi Johanna Menet, qui est dans le public. Et c'était une recherche avec des jeunes entre 16 à 20 ans, ici dans le canton de Neuchâtel, mais aussi à Lucerne. Et en fait, c'était une recherche, on s'est intéressé comment... Quel rôle joue la religion, mais aussi l'ethnicité, pour faire des frontières, pour construire des frontières, donc c'est-à-dire de catégoriser les gens dans la vie quotidienne qu'on fréquente autour de soi, dans les catégories de religion, donc catégories d'appartenance, déjà créées, oui, en nous et en vous, mais aussi, pas seulement cette différence, mais aussi de voir les autres comme moins bien, donc créer des sortes de hiérarchies entre des personnes, de vouloir aussi de se distancer d'eux. Donc, c'était une recherche voilà, qui ne portait pas forcément sur l'islam, mais l'islam et les musulmans, c'était une catégorie qui émergeait de cette recherche, donc c'était une frontière qui était assez... dominant, donc ces jeunes-là, ça tournait autour de questions de l'islam. Voilà.
Merci beaucoup. Mallory Schnevely.
Bonjour. Alors, tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation. Je remercie également le public d'être si présent. Bonjour, Nadia. Ça laisse arriver.
Ça, super, c'est parfait. C'est parfait. On en est juste aux présentations.
Thank you. Voilà. Alors moi, je suis ici à titre de divers casquettes. D'abord, enfin, j'ai étudié l'ethnologie et la sociologie ici à Neuchâtel, il y a de ça maintenant bien quelques années. Et après ces études à Neuchâtel, j'ai démarré une thèse de doctorat à l'Université de Fribourg en co-tutelle avec l'École pratique des hautes études à Paris, à la Sorbonne. Et je me suis, moi, clairement intéressée au rôle du référent religieux dans la construction identitaire des jeunes issus de l'immigration musulmane. Et j'ai essayé de regarder comment finalement cette religion pouvait être vécue comme un stigmate, mais également comment elle pouvait être vécue comme une richesse. Passé ces premiers volets, je dirais que je me suis intéressée à d'autres religions. J'avais besoin de retourner à vraiment la sociologie avant de revenir finalement sur l'islam, à travers cette fois une étude sur les enjeux du pluralisme religieux dans les prisons. J'ai visité des prisons, 26 prisons, pendant 3 ans. On a prolongé encore le terrain ensuite pendant 2 ans, où là, je me suis intéressée à la gestion organisationnelle, institutionnelle de l'islam dans les prisons suisses, au rôle qu'avaient les imams et les intervenants musulmans dans ces prisons et aux mobilisations du religieux qu'avaient les détenus de confession musulmane. Et depuis cette année, début 2015, je travaille actuellement comme chargée de recherche au nouveau centre suisse Islam et Société, qui a été malencontreusement appelé par les médias le centre de formation des imams, ce qui n'est pas le cas, mais on pourra en rediscuter si d'aventure cela vous intéresse. Et à côté de ceci, j'ai monté une société, un bureau conseil qui s'appelle Pluralité, pour lequel je développe des formations sur mesure par rapport à des publics cibles. Et je travaille également comme consultante pour différents organismes étatiques, mais également pour la RTS. Voilà.
Merci beaucoup. Alors Nadia Carmous, puisque vous êtes là, je vous laisse vous présenter.
Alors bonsoir, désolée encore pour le retard, mais vous savez, quand j'arrive toujours à l'avance et je me dis c'est pour pallier aux préjugés qu'on va dire « Ah, les musulmans sont en retard ». Et là, je me suis fait vraiment avoir, mais pas. On a pris 1h30 d'avance en venant, mais on a eu la police, les accidents, et puis bon, ils ont indiqué ça à la radio, vous n'avez pas écouté, mais bon, nous, on a écouté, il y avait des problèmes sur la route. Je me présente, alors je suis suissesse d'origine andalouse et algérienne. Je suis biochimiste de formation et je m'occupe de l'Association culturelle des femmes musulmanes de Suisse et de l'Institut culturel musulman de Suisse en tant que bénévole depuis maintenant à peu près 20 ans, on peut dire, oui, 20 ans. J'ai commencé très jeune dans la vie associative à 19 ans. Et j'ai donc un parcours où je rencontre beaucoup de gens, je m'enrichis avec eux, et c'est ce qui est le plus avantageux dans ce que je fais bénévolement, c'est que je rencontre des gens de tous les pays et aussi mes concitoyens suisses, et c'est de là que nous continuons à faire des projets tout au long, depuis maintenant 20 ans. Nous avons le projet de faire bientôt un musée des civilisations de l'islam qui verra le jour en 2016, en mai 2016, à la Chaux-de-Fonds. Et puis là, c'est juste un échantillon de ce qu'on veut donc faire. On aimerait que cela se fasse dans beaucoup d'autres capitales, entre autres à Berne, par exemple, ou dans d'autres, à Genève et même à Paris. Bon, il y a des gens qui sont intéressés à Paris, à Berlin et à Dubaï, mais j'espère déjà qu'à la Chaux-de-Fonds, cela verra le jour et que ce sera un succès. Je suis ici, je vous remercie de m'avoir invitée. Le sujet m'intéresse beaucoup. On voit que depuis un certain temps, c'est vrai que cette question est sous les projecteurs et aussi elle est vécue par des gens de tous les jours qui nous téléphonent dans l'association, qui nous disent leur mal-être et puis leur peur, leur crainte et leur questionnement. Voilà.
Merci beaucoup, Nadia Carmous. À vous, Alpaslam Korkmaz.
Voilà, merci. Bonsoir, mesdames et messieurs. C'est un plaisir ce soir de jouer le Jurassien de service. Je suis né à Porrentruy, donc je commence par ça pour un petit peu égayer la discussion. Effectivement, je vais aussi jouer un peu le musulman service un peu plus tard, terminologie que j'aborde, mais que je vais quand même utiliser pour peut-être détendre l'atmosphère. Oui, je suis né en Suisse, je suis issu de l'immigration, comme je le disais tout à l'heure dans un petit aparté, mais aujourd'hui je suis suisse et de confession musulmane, je suis chargé de cours à l'université de Neuchâtel, mais j'ai d'autres activités, d'autres critères me définissent, par exemple, j'aime pas le foot, ça me définit aussi, mais ça nous intéresse pas ce soir, et ceci dit, je suis dans le conseil international, plutôt dans les structurations d'entreprise sur le le plan international, c'était le début de ma carrière. J'étais dans le secteur privé, par la suite j'ai été directeur de la promotion économique du canton de Neuchâtel. À l'époque, j'étais quand même fier aussi de pouvoir avoir un prénom pas tout à fait, je dirais, de l'arc jurassien. Alpaslan Korkmaz, ça fait pas, même si ça veut dire des choses très intéressantes en turc. Lion Vaillant, j'aurais traduit plus tard, mais enfin, moi, je le dis d'emblée. Voilà, donc j'ai eu quelques fonctions. Ensuite, je suis parti en Turquie, prendre une autre fonction en Turquie, parce que c'est le pays de mes parents. Je n'y avais jamais vécu. Je voulais savoir si j'allais m'y sentir à l'aise. Donc j'ai pris une fonction, je dirais, officielle. J'ai fait pendant 4 ans et demi, enfin, j'ai monté, créé de A à Z et présidé l'Agence nationale turque des investissements internationaux. Et puis finalement, j'ai démissionné il y a 4 ans et demi et j'ai monté une société à Istanbul qui fait du conseil international, qui opère entre, je dirais, l'Europe, l'Asie centrale et le Moyen-Orient. Et puis, j'ai aussi créé une société à Neuchâtel. Mes associés sont ici présents d'ailleurs, puisque c'est quand même ma région. Et nous construisons des maisons et des appartements tout à fait agréables d'ailleurs. Que je pourrais... Ça n'est pas le sujet ce soir, d'accord, très bien. Alors, ceci étant dit, oui, le sujet m'interpelle au plus profond. Alors, un peu, je dirais, de légèreté. Mais le sujet est extrêmement important parce que qui sommes-nous tout d'abord? C'est un petit peu les questions que j'aimerais nous poser à nous tous. Et qu'est-ce qui nous définit? Évidemment, on peut exacerber un facteur qui définit une personne. Évidemment, on peut. Évidemment, dans les solutions de facilité, ce sont les choses qu'on essaie de mettre en avant. Mais ce soir, peut-être ensemble, en tout cas avec des panélistes beaucoup plus scientifiques que moi, nous allons pouvoir, un, élever le débat, deux, j'espère, élever les consciences ensemble.
Merci beaucoup. Nous allons tout de suite passer au cœur du débat et à la première question qui nous intéresse, c'est en fait, c'est quoi l'islamophobie? Je vais vous donner deux définitions qu'on trouve dans le dictionnaire et j'aimerais que vous réagissiez sur ces définitions, si vous êtes d'accord, un petit peu, beaucoup, pas du tout. Donc, selon le grand Larousse, l'islamophobie, c'est l'hostilité envers l'islam et les musulmans. Et le petit Robert va un peu plus loin, il parle d'une forme particulière de racisme dirigée contre l'islam et les musulmans. Alors je commence à m'adresser peut-être à vous, Mallory Schneubli, comment vous réagissez à ces définitions?
Pardon, la phobie du micro. C'est des définitions qui ont le mérite d'aller à l'essentiel, mais qui manquent leur cible en manquant de contextualiser et de donner de la profondeur justement au terme. Donc effectivement, on peut apparenter l'islamophobie à une hostilité envers les musulmans. C'est du reste ce que les rapports fédéraux ont tendance à désigner, hostilité envers les musulmans. Mais je crois qu'on oublie quand même que ça dénote aussi une certaine crainte, quand même concrètement, de l'islam et une intolérance et une méfiance envers les musulmans. Cette crainte de l'islam, aujourd'hui, elle est vraiment très latente. Et on voit que dans le grand public, on a tendance à réduire le musulman, j'ai envie de dire, à l'homo islamicus, et qu'on aura tendance à savoir mieux que lui et mieux qu'elle, finalement, ce que c'est d'être musulman, et de réduire toute son identité à ce fameux homo islamicus qu'on va réduire à une caricature. Et aujourd'hui, si vous demandez à quelqu'un dans la rue « c'est quoi pour toi un musulman ?», on va généralement décrire un homme, actuellement peut-être plus jeune qu'il fut un temps, hein, parce que c'est vrai qu'avec la polémique autour de l'État islamique, cette caricature tend à se rajeunir, mais ça va être un homme barbu, potentiellement dangereux et potentiellement délinquant, ou une femme soumise, voire battue, et pour tous les cas, en tout cas, voilée. Mais jamais on va ne penser à décrire son voisin, son médecin, son homme d'affaires, etc. Donc on voit qu'on réduit vraiment le musulman à son appartenance supposée religieuse et supposée à certains de ses stigmates. Et c'est vraiment aussi ça, finalement, l'islamophobie. C'est cette tendance à réduire une personne à une seule composante de son identité et à omettre de prendre en considération toutes les autres appartenances qu'il a et tous les rôles sociaux qu'il assume dans la société.
Merci beaucoup. Nadia, est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose ?
Le terme islamophobie est venu... comme ça, alors que normalement le terme antisémite suffisait, parce que les musulmans sont sémites, donc aussi. Donc les lois antisémites suffiraient à condamner les gens qui se prononcent ou qui attaquent les musulmans sur la valeur de leur être, de leur comportement religieux. Quand on dit islamophobie, ça fait apparaître la religion, donc l'islam. C'est incomplet, parce que les actes se font contre l'islam, certes, contre cette religion, parfois, mais aussi contre, et c'est ce qui est le plus important, c'est contre l'humain, contre le musulman. Donc le mot n'est pas... peut-être que là, on peut dire qu'il répond avec les études sociologiques, on a voulu lui donner ce terme à cela, mais c'est très réducteur, et de renvoyer le musulman à sa religion alors que c'est une affaire privée pour lui et que l'attaque est faite à l'être humain. Donc le mot antisémitisme serait plus adéquat, ou bien il faudrait inventer un mot où il y aurait la formulation musulman, en clair que c'est une attaque contre le musulman, contre l'être humain, contre sa liberté, donc contre les valeurs universelles auxquelles on a adhéré depuis quelques siècles et qui ne sont pas tolérées pour le musulman pour X raisons, on en parlera plus tard.
Est-ce que vous voulez réagir par rapport à... Oui.
Bon, je trouve très convaincant et je ne vais pas forcément contredire, je vais peut-être plutôt encore ajouter quelque chose. Peut-être s'il y a ces deux définitions, une fois forme particulière de racisme ou hostilité envers l'islam, je tente peut-être plutôt vers la deuxième parce que, en tant que du point de vue scientifique, je trouve que c'est quand même assez convaincant quand même de bien distinguer les différentes formes d'hostilité, de peut-être pas sous-catégoriser l'hostilité envers l'islam sous la forme de racisme, parce que chaque isme, on peut dire, a son historique spécifique, a un contexte spécifique. Hein, là, pour l'islam, contre l'islam, ça a surtout émergé quand même durant les dernières 15 ans, depuis peut-être le 11 septembre. Les questions d'antisémitisme sont liées à un autre historique, un autre contexte. Donc, moi, je trouve que ça fait aussi, c'est convaincant aussi de bien distinguer ces différentes hostilités, formes d'hostilité, et les mettre dans les contextes, dans un historique. Et après, bien aussi comprendre qu'est-ce que sont les logiques peut-être différentes là-dedans. Il y avait peut-être pour le racisme, c'est souvent lié aussi à des questions biologiques, génétiques, que les gens mobilisent hein, pour défendre ce type d'idéologie. Peut-être pour l'islam, en tout cas nous, dans notre étude, ce qu'on a pu voir, c'était quand même les gens mobiliser les arguments religieux, séculaires, pour justement essayer de légitimer cette hostilité. Donc, il y a des logiques, à mon avis, différentes.
Et Al-Faslam ?
Tout à fait. Donc, aussi dans un souci peut-être de compléter, juste petite remarque, je ne suis pas sémite, Nadia, mais je suis musulman. Déjà, je suis suisse. 80% des musulmans de par le monde ne sont pas sémites. Mais j'ai bien compris l'idée que Nadia veut mentionner, c'est-à-dire que la notion dont on parle, c'est le racisme, aussi clair qu'il soit. Et le racisme est juridiquement, pénalement condamnable. C'est-à-dire lorsqu'on essentialise une personne du fait de son appartenance religieuse, ethnique ou quelle qu'elle soit, lorsqu'on en fait un concept abstrait et que sur ce concept abstrait, on peut déverser son fiel, si vous me passez l'expression, eh bien à ce moment-là, on tombe sous le coup de la loi pénale. C'est aussi simple que ça. Maintenant, islamophobie, étymologiquement, phobia, la peur, islam, donc peur de l'islam. L'étymologie du mot islamophobie, c'est cela. Mais on sait pertinemment que l'acception, je dirais, courante aujourd'hui de la terminologie, c'est plutôt racisme envers des musulmans. Et là, je m'adresse aussi aux gens de confession musulmane en disant que la critique d'une religion est une chose. Évidemment, si elle est intelligente, intelligemment posée avec des outils intellectuels qui nous permettent d'avoir, je dirais, une approche critique d'une religion, c'est une chose qui a sa tradition dans le monde occidental et même d'ailleurs dans le monde oriental, même si elle a perdu cette tradition depuis quelques siècles, elle a le droit d'être. Par contre, de critiquer, je dirais, une religion, mais pour en faire un outil d'essentialisation et d'aller à un terme de plus, d'hostilité et de racisme envers des gens juste de par leur confession religieuse, que ça soit de l'antisémitisme ou quel que soit le but, il faut que déjà, je pense, toute personne ayant une approche humaniste, démocrate simplement, ou citoyenne, ce que je suis en train de faire, j'espère pas avec trop d'émotion, mais s'insurge simplement et déconstruise ses idées. Parce que ces idées sont extrêmement dangereuses, elles ont déjà prouvé leur dangerosité à plusieurs étapes de l'histoire de l'Europe. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'il faut, je dirais, peut-être essayer de définir les mots proprement, de manière appropriée. Oui, c'est une crainte de l'islam, oui, et il faudrait même aussi, en tant que... je m'adresse aussi aux gens de confession musulmane, se poser la question pourquoi ces craintes existent. Donc ça, c'est une autocritique des gens qui se reconnaissent de la religion de l'islam, que ce soit au niveau culturel ou spirituel. Je ne fais pas, je dirais, de différence ici. Mais d'un autre côté, si nous posons comme base, élément de base, la citoyenneté, Et le fait que, tout à l'heure, vous avez parlé des valeurs universelles, qui sont les valeurs qui nous unissent dans le vivre ensemble aujourd'hui, eh bien, typiquement, l'acception du mot islamophobie aujourd'hui est une acception d'attitude hostile, voire raciste, envers des musulmans, donc envers des personnes. C'est une essentialisation des gens, et là, on crée des concepts, c'est le début des mauvaises, je dirais, approches.
Vous voulez encore intervenir ?
Oui, si je peux encore ajouter quelque chose, ce qu'il y a vraiment d'insidieux finalement avec cette notion d'islamophobie, c'est qu'en fait, elle regroupe une addition ou elle additionne, je dirais, les différentes formes d'hostilité. Parce que les musulmans sont divers, hein, comme on vient déjà de l'entendre. Il y a des musulmans, l'islam est essentiellement une religion asiatique. Le plus grand pays musulman aujourd'hui, c'est l'Indonésie, suivi par l'Inde et la Malaisie. Donc ce n'est pas forcément non plus une religion simplement du Moyen-Orient, des Balkans ou de Turquie. Et il y a aussi l'islam qui est en Afrique noire. Donc quand on taxe finalement, ou quand on parle d'islamophobie, on a tendance aussi finalement à additionner cette hostilité d'une part envers les gens qui ont l'islam comme religion, mais aussi d'additionner cette hostilité envers une forme d'ethnicité, comme vous l'avez montré dans votre recherche, envers des gens qui seraient de Turquie ou des Balkans, beaucoup à propos des albanophones, hein, comme vous l'avez montré, mais également l'addition d'une forme de racisme envers les musulmans d'Afrique noire. Et je me rappelle lorsqu'on avait essayé une fois, j'ai fondé le groupe de recherche sur l'islam en Suisse il y a de ça 10 ans, on avait voulu lancer une recherche sur l'islam noir en Suisse, et j'avais interrogé dans ce cadre-là un monsieur qui venait du Mozambique, puis qui me disait, mais attends, je suis déjà noire, je ne vais pas encore dire aux gens que je suis musulman. Et ça m'avait vraiment choquée comme phrase, et c'est choquant comme phrase, et on voit finalement qu'on additionne ces hostilités et qu'on essaye de les segmenter et de créer encore une fois cet homo islamicus. Et j'aimerais peut-être soumettre au débat un terme qui commence à émerger dans la littérature scientifique, qui est celui de musulmanophobie, pour désigner justement cette forme de racisme ou de xénophobie envers les individus de confession musulmane qui sont justement pluriels du point de vue des races, des ethnicités et des appartenances.
Voilà, merci beaucoup. Effectivement, on se rend compte, une étude vient de sortir qui s'appelle rapport succinct sur l'étude Vivre ensemble en Suisse. C'est une étude qui a été réalisée par le service de lutte contre le racisme. Elle vient juste de sortir. Et dans cette étude, on voit qu'effectivement, il y a d'un côté une grande défiance envers l'islam et de l'autre côté une hostilité envers les musulmans, et c'est pas tout à fait les mêmes proportions. On est beaucoup plus méfiant envers l'islam qu'on est hostile envers les musulmans, mais malgré tout ça se recoupe, hein. Donc c'est vrai que on voit que d'après cette étude qu'un quart des personnes interrogées pensent qu'il serait mieux qu'il n'y ait pas du tout de musulmans en Suisse. Que les musulmans qui sont là, ils ne devraient pas avoir la possibilité de pratiquer leur religion, et qu'il faudrait interdire l'immigration des musulmans en Suisse. Ce rapport montre aussi que le pourcentage des personnes hostiles aux musulmans varie en fonction de l'actualité. Donc, par exemple, à l'époque des votations sur les minarets, 45% des personnes interrogées étaient hostiles aux musulmans, alors qu'aujourd'hui, c'est descendu à peu près 18%. Et c'est intéressant parce que si on compare, par exemple, au pourcentage des personnes qui sont hostiles aux juifs, pour comparer deux religions, on voit que du côté des juifs, c'est le pourcentage de personnes hostiles aux juifs est constant, quelles que soient les circonstances dans lesquelles on vit, quelle que soit l'actualité politique ou les événements qui se passent dans le monde. Alors, c'est la question que j'aimerais vous poser, c'est comment est-ce que vous expliquez qu'on peut être si critique envers les musulmans, qui sont d'une certaine manière les nouveaux boucs émissaires, et d'une certaine manière en toute bonne conscience? Est-ce que c'est les initiatives de l'UDC, puisque leur programme politique, c'est clairement l'hostilité envers les musulmans? Donc si un parti politique peut avoir comme programme politique l'hostilité envers les musulmans, est-ce que ça ne légitime pas l'hostilité? On peut être hostile, puisque même certains partis politiques tout à fait légitimes le sont ouvertement, donc ça nous permet de l'être. Ou est-ce que ça pourrait être dû à la manière dont la presse couvre couvre aussi l'actualité. Et là, je cite un livre qui vient de paraître de Charb dans son livre posthume, qui dit « L'islam que les médias donnent à manger à leurs consommateurs est forcément radical et poilu ». Donc, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'on puisse, alors qu'on a quand même quelques, pour certaines autres communautés ou certaines autres ethnies ou certaines autres races, on a peut-être une certaine retenue. Pour les musulmans, non, il semble qu'on puisse critiquer en toute bonne foi. Est-ce que je peux vous demander d'intervenir pour de répondre à...
Alors, il va de soi que l'initiative anti-minaret qui a été lancée en 2007, déjà par la récolte de signatures, a d'une quelque sorte démocratisé la critique envers l'islam et les musulmans. À partir de ce moment, mais je dirais que cette hostilité envers les musulmans, elle a commencé, elle a eu ses prémices en 2001, c'est clair, avec les événements du 11 septembre. Elle a vraiment pris l'ascenseur en 2004, lors de la votation sur les naturalisations facilitées, où l'UDC déjà avait manipulé, je dirais, certains chiffres en nous montrant qu'en 2040, il y aurait plus de musulmans en Suisse que de Suisses. Donc faisait vraiment cette frontière entre le fait, enfin, affirmait qu'il n'était pas possible d'être suisse et musulman hein, en montrant ces chiffres-là. Maintenant, en 2007, avec la récolte de signatures, il y a vraiment eu cette critique sur l'incompatibilité des valeurs de l'islam, du système de l'islam et des modes de vie hein, des musulmans. Je patiente, avec la démocratie suisse et les valeurs de Suisse. Et finalement, le débat public est devenu politique, est devenu médiatique, et on a d'une certaine façon démocratisé la critique, et on l'a légitimé finalement, la critique envers l'islam et les musulmans. Maintenant, on ne peut pas dire que ça soit simplement une responsabilité médiatique, ni même une responsabilité politique. Je crois qu'on a tous, en tant que citoyens, une responsabilité. Parce qu'on peut avoir une écoute passive à ce qui dit, on peut dénoncer cette forme d'islamophobie qu'on monte, ou on peut aussi contribuer à la relayer. Donc rejeter simplement la faute de ce climat quand même islamophobe à certains moments de l'actualité aux politiques, en particulier à l'UDC ou simplement aux médias, je pense que c'est aussi se déresponsabiliser de notre conscience finalement collective et du vivre ensemble qu'on peut construire ensemble.
Merci beaucoup. Est-ce que, Madame Demler, est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter par rapport aux études que vous avez faites vous-même?
Oui, justement. Donc je peux un peu peut-être... informer un peu sur les résultats de notre étude. Donc, c'était une étude avec des jeunes, je rappelle, entre 16 et 20 ans, de diverses religions, et je vais peut-être un peu pour les résultats me concentrer sur les non-musulmans. Et en fait, ça peut peut-être permettre de nous comprendre pourquoi ce racisme ou hostilité s'exprime vraiment en toute bonne foi. Pourquoi les gens trouvent ça tellement légitime de critiquer l'islam ou les musulmans. Et en fait... Un résultat de notre étude était parce que c'est vraiment profondément lié aussi à la manière de percevoir sa propre religion et sa propre religiosité. Et en fait, il n'y a pas seulement une construction de vous, hein, de l'autre, mais c'est vraiment directement lié à moi-même, à nous et comment je perçois moi-même et les gens autour de moi que je regroupe avec moi et comment nous, je pense, hein, de comment nous, on vit notre religion. Donc, ce n'est pas seulement la construction de l'autre, mais aussi de la construction de soi. Et ça tournait en fait autour de trois axes. Premièrement, c'était vraiment profondément lié au fait que les non-musulmans étaient convaincus qu'eux-mêmes, ils vivent leur religion de manière très libre, hein, qu'ils sont libres dans leur choix des règles, autonomes, personne ne leur impose quoi qu'il soit. Et l'autre était construit de manière vraiment pas du tout autonome, subit des règles d'autres membres de la religion. Donc l'idée, par exemple, qu'une femme musulmane peut porter une voile librement, que son libre choix, ce n'était pas du tout... dans l'esprit des jeunes en fait, de notre étude. Donc, juste pour vous donner un bon exemple. Un deuxième axe était que les jeunes non-musulmans étaient convaincus qu'eux-mêmes, ils vivaient leur religion de manière très modérée, pas du tout extrême. Peut-être selon les traditions, on faisait quelques fêtes, mais en tout cas, pas du tout, pas très pratiquant. Et à nouveau, l'autre était construit vraiment très catégorisant que de manière extrême, radicale presque. Et du coup, ça réduisait aussi la manière de vivre sa religion à un essentialisme hein, qui, c'est clair, est complètement faux, très préjugé. Mais c'était une idée qui était assez forte, donc liée aussi toujours aux questions de radicalisation, terrorisme. Et un troisième axe aussi assez intéressant, Et ça, c'est profondément lié aussi à notre manière de percevoir la religion et les valeurs séculaires, en fait. Les jeunes étaient convaincus, par exemple, qu'eux-mêmes, ils vivaient leur religion de manière dans le privé, hein, pas du tout visible, on pose à personne d'autre, on le montre à personne d'autre, c'est une affaire privée. Et à nouveau, l'islam était vu comme quelque chose qui est en public, avec les minarets, qui est visible, avec la voile, et le voile. Et du coup, à nouveau, une distinction bien ficelée, bien prononcée, qui bien sûr aussi plein de préjugés, pas seulement envers les musulmans, mais aussi en fait envers nous, parce que la religion chrétienne, elle est bien visible, hein, l'église, les croix, les cloches. Donc c'est en fait une distinction qui joue pas, si on réfléchit plus loin, mais qui est quand même convaincant et qui est très convaincant pour les jeunes de notre étude. Et bien sûr, ça c'est quelque chose qui était déjà dit tout à l'heure, en fait c'était profondément toujours lié aux questions de genre, donc question égalité entre hommes et femmes. Et donc du coup, c'est vraiment des sujets très de haute actualité, et c'est pour ça cette catégorie l'islam musulman et cette hostilité, elle est tellement forte parce qu'elle est liée aux questions d'égalité, de genre, aux questions profondément comment nous on perçoit notre religion. Et du coup, c'est des sujets qui touchent beaucoup, et c'est pour ça, à mon avis, ça pouvait se créer si manifeste, cette hostilité. Voilà.
Mais je vous en prie.
Alors, je pense qu'il y a toutes sortes de raisons, mais il y a aussi la raison, il y a des faits historiques, hein, l'histoire de l'Orient et l'Occident, on pourrait en parler pendant des heures. Mais pour nous en Suisse, je pense que c'est en 1990 que l'islam est devenu un problème de la société, donc des populations. Et il est devenu, et justement même le rôle des musulmans, avant il était d'aider les gens à apprendre leur religion, après il est devenu civico-religieux. Il fallait toujours répondre, on a pris du temps, jusqu'à présent, il fallait toujours répondre à tout ce qui se passe dans le monde, et l'islam est devenu la religion dans ce pays de l'autre qui pose problème ailleurs. Donc on veut toujours le réduire à ce qui se passe ailleurs dans d'autres pays, lui poser la question pourquoi les femmes ne conduisent pas en Arabie Saoudite, pourquoi il y a telle chose en Égypte, pourquoi l'excision, toutes sortes de problématiques. Et c'est devenu un peu il fallait qu'il soit l'avocat toujours à répondre. S'il se passe quelque chose dans le monde, il fallait vite qu'il envoie, même s'il n'a pas réuni le comité, il faut envoyer un communiqué de presse disant que non, nous sommes pas d'accord avec ce qui se passe. Il fallait toujours, donc depuis ces années-là, bien sûr le 11 septembre n'a pas arrangé les choses. Loin de là, parce qu'il y a eu aussi l'affaire du voile en France, et puis les voisins sont très influents sur la Suisse, en tout cas, surtout du côté de la Suisse romande. Et donc, en 1989, il y a eu ce problème avec les filles voilées de l'école qui ont été donc expulsées. Il y a toute une histoire à propos du voile. Et voilà que l'islam est devenu pas la religion à connaître, une culture, une richesse, mais est devenu un problème. Et le problème fait peur. Il fait peur aussi parce que déjà la culture, donc la culture chrétienne est méconnue. Elle fait peur parce qu'elle a toute une histoire de ségrégation, d'injustice et tout ce qu'elle porte. Et il y a eu des lois, la laïcité est venue pour solvatrice, hein, pour sauver, un peu pour donner cette liberté à tous de s'exprimer sans que l'Église n'a pas de main mise sur l'État et sur les comportements des populations. Et c'était quelque chose de très important, heureusement. Mais aujourd'hui, cette laïcité est malmenée, elle devient comme une religion dans certains pays, elle devient extrémiste et elle empêche les personnes, les populations qui formaient jusque-là une population qui contribuait, citoyenne, et elle les agresse d'une façon tout à fait normales, les empêchant, on peut donner des exemples, d'aller librement à l'école. Il faut stigmatiser ces jeunes, même à l'université. On peut ne pas parler des jeunes filles, on peut dire qu'elles sont peut-être influencées par leurs parents. Mais on sait très bien que ce sont les parents qui éduquent les enfants jusqu'à 16 ans. Après, ils choisissent la religion qu'ils veulent. Et puis, toute cette amalgame, bien sûr, qui est aussi très manipulée, parce que, bien sûr, un certain parti en Suisse a commencé très, très, très jeune, je crois en 1992 déjà, à prôner, à utiliser l'islam comme donc véhicule de la peur et pour récolter des voix, pour se faire une place au niveau politique. Et c'est un peu tout cela. Les musulmans, la majorité des musulmans sont silencieux, c'est une majorité silencieuse. Ceux qui parlent, on les taxe d'extrémistes ou qu'est-ce que vous revendiquez, que voulez-vous. Donc, ils sont un peu perdus. Et ce qui se fait, c'est que les études comme celle-là montrent très bien, et ça c'est alarmant, que 30% de la population suisse est xénophobe. Et ça, c'est quelque chose qui choque et qui nous laisse perplexe et qui nous fait réagir. Il faudrait qu'on travaille là-dessus et qu'on ne soit pas passif.
Merci beaucoup. Paslam.
Merci. Oui, moi je suis toujours très partagé. Je prends rarement la parole, je dirais en public, pour parler de mon approche spirituelle. Parce qu'en fait, posez-vous la question, est-ce qu'on vous a déjà demandé de participer à un panel pour nous dire, parlez-nous de votre spiritualité. Vous êtes économiste, vous êtes politologue, vous êtes tout ça. Parlez-nous un peu de votre monde intérieur. C'est très embêtant, voyez-vous, au bout d'un moment, les musulmans se sentent, ou les gens de confession musulmane se sentent un peu pris dans une sorte de position où il faut constamment expliquer, se justifier, et présenter patte blanche, etc. Ça, c'est pour l'aspect psychologique aussi. Il faut essayer de comprendre cela, donc je dirais de manière générale, point 1. Point 2, je rebondis sur ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport à un parti qui aujourd'hui fait son beurre. C'est aussi pour ça que j'ai pris la parole aujourd'hui, parce qu'en fait, je ne fais pas ça. Pourquoi le ferais-je ? Face à mes étudiants, je ne parle pas de ma religion. Je parle de relations internationales, je parle de négociations internationales, je parle de publicité, ce sont les cours que je donne. Pourquoi je dois prendre la parole pour expliquer ma spiritualité ? Pourquoi ? Parce qu'il y a une situation ambiguë, ambivalente, qui pose problème aussi dans l'esprit, je dirais, de tout un chacun. Et ce parti qui essaye de profiter, je dirais, de cette approche, sincèrement, essayez de souffrir quelques instants et allez sur YouTube et écoutez. Écoutez les caciques de ce parti invités dans les grandes manifestations européennes anti-islamiques, anti-islamisation de l'Europe. Vous savez, au bout d'un moment, ça me fait aussi un peu mal parce que jamais je n'ai essayé de parler de l'islam à gauche à droite, mais au bout d'un moment, je dois prendre la parole. Je ne peux plus me taire. Je ne peux plus être considéré comme celui qui vient ici pour prendre vos femmes, prendre vos valeurs. Vous voyez, au bout d'un moment, on se dit, mais attendez, où va-t-on ? Ça va loin. Ça va très loin. Écoutez simplement ces personnages qui sont au Conseil national de notre pays, la Suisse, pays démocratique. Écoutez simplement ces personnages qui sont des conseillers d'État. Écoutez-les. C'est très difficile pour moi d'écouter en tant que citoyen, démocrate, certes de confession musulmane, mais tout à l'heure j'ai défini 2-3 autres paramètres. J'ai dit jurassien, j'ai dit je n'aime pas le foot, j'aime l'histoire, j'aime beaucoup d'autres choses. Mais pourquoi je dois constamment revenir à ceci ? Ça, je vais le mettre de côté. J'aimerais juste que ce soit une réflexion, je dirais, au sein de l'esprit de chacun d'entre nous. Ensuite, deuxièmement, je pense quand même, si j'ai une vision plus macro de la situation, qu'il y a un processus, au sens sociologique du terme, de normalisation. Ça va prendre du temps, je ne peux pas me taire, à l'instar de Lao Tzu, au lieu de me complaire, si vous voulez, dans les ténèbres, je vais allumer ma petite bougie aujourd'hui. Donc voilà, parce que je suis quelqu'un qui croit en la responsabilité de chacun, j'ai beaucoup aimé l'approche que vous avez utilisée tout à l'heure, de dire qu'il faut se responsabiliser, on ne peut pas se taire, on ne peut pas juste silencieusement regarder les choses se faire. Alors évidemment, on ne demande pas à tout le monde de prendre, toutes les solutions possibles et imaginables. C'est pas ce qu'on demande. C'est juste, ici et maintenant, dans les milieux dans lesquels vous êtes, si vous entendez un propos qui est simplement raciste, quel qu'il soit, au sens antisémite, au sens de tout à l'heure, quel qu'il soit, si nous croyons aux valeurs de démocratie, des valeurs fondamentales, etc., et si nous ne repoussons pas constamment ces gens qui n'avaient rien demandé, vous avez parlé de la majorité silencieuse, des gens, certes de confession musulmane, mais qui participent à la société helvétique depuis des années, comme mes parents, qui tous les matins se levaient à 6h30, les deux pour aller à l'usine. On leur a jamais dit à l'époque, vous musulmans, hein, il fallait travailler à l'usine. Ils ont travaillé. Par contre, ils nous ont éduqués dans des valeurs, mes deux sœurs et moi-même, pour essayer d'être citoyens de ce pays. Et si constamment on vous dit, ouais, mais bon, attends, quand même, je sais pas. Mais évidemment, vous voyez, c'est très énervant pour parler, poliment. Alors, ce qui me désole, c'est que des gens qui sont aujourd'hui des caciques, des partis politiques reconnus, acceptés, puissent sans aucun problème dire « je suis contre, je me suis levé ». Ce sont des propos, hein. « Je me suis levé » et vous avez une bande, alors évidemment, d'Allemands plus ou moins rasés au niveau de la tête qui crient et qui sont contents. Alors, j'ai rien contre les Allemands, mais quand je vois les gens qui sont dans l'Assemblée, ça me fait un peu peur, moi, personnellement. Et je vois ce cacique du parti suisse très à l'aise à Berlin ou à Paris faire ce genre de discours et revenir tout tranquillement, prendre son train entre peut-être le Valais et Berne et faire ses allers-retours. Ah oui, voyez-vous ? Et enseigner à nos enfants, il est prof en plus. Alors, ce qui me fait peur, c'est ça. Alors, moi, je peux aussi être, je ne sais pas, quelque chose phobe. Je ne sais pas ce que je peux mettre là-dedans. Mais voyez, il faut être responsable. Je pense qu'il faut être responsable, redéfinir quelles sont les valeurs fondamentales qui nous unissent tous et ne plus repousser l'autre, aujourd'hui un peu, qui nous permet de nous construire certainement, mais l'autre qui est ce personnage musulman ou homo islamicus, mais peut-être l'intégrer dans les concepts de cette société, qui est une société plurielle, multiculturelle, tolérante, qui a pu développer, qui a fait ces deux guerres de Capel, mais c'était il y a quelques siècles, hein, ladies and gentlemen. Et puis ces guerres de Capel, aujourd'hui, elles sont derrière. Et le protestantisme n'est plus aujourd'hui une religion satanique qu'il faut combattre par monts et merveilles. Non ? Ou Valais, peut-être ? Voyez-vous ? Non ?
À Neuchâtel, voilà. C'était plutôt le catholicisme.
C'était le catholicisme, quoique...
voilà. J'aimerais juste quand même redire encore une petite chose, c'est que il faut aussi, il faut vraiment redévelopper, c'est ce que je disais, ce que vous disiez aussi, cette conscience citoyenne. Il faut juste réagir en tant que citoyen et dénoncer finalement ces xénophobies. Mais je pense qu'il faut aussi respecter dans une certaine mesure les gens qui ont sincèrement peur de l'islam et qui peut-être n'osent pas le dire. Parce qu'il est vrai que l'image qu'on en donne aujourd'hui, ce qu'on en entend, fait peur. Et pour la grande majorité, je dirais aussi, des Suisses, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, il n'y a pas que les Suisses non musulmans qui ont peur de cette image de l'islam. Je connais des musulmans qui aussi ont peur de cette image de l'islam. Et je pense qu'il faut aussi faire attention à ne pas taxer tout de suite d'islamophobe quelqu'un qui aurait des réserves, qui se posent des questions et qui a simplement vraiment peur de ce que l'on montre. Et il est évident que c'est vraiment pénible hein, de s'expliquer, de continuer à expliquer les mêmes choses, de devoir se dissocier de comportements qui ne sont pas les nôtres, de pratiques qui ne sont pas les nôtres, ça je comprends tout à fait, mais malheureusement, le contexte aujourd'hui ne vous laisse pas le choix et les musulmans de ce pays doivent vraiment finalement sortir de l'ombre et s'exprimer en tant que citoyens pour aussi faire connaître leurs pratiques qui ne sont pas les pratiques qu'on nous montre aujourd'hui qui sont celles de l'État islamique ou d'Al-Qaïda.
Merci beaucoup. Je me permets de passer à la troisième question puisque on aimerait avoir aussi un peu de temps pour avoir le débat avec le public. Et la troisième question, Al-Paslam, vous l'avez évoqué déjà, c'est les conséquences de cette islamophobie, de cette hostilité envers les musulmans. Alors, les conséquences pour la société suisse, d'une part, et les conséquences sur les musulmans, pour la population en Suisse, c'est justement une remise en cause d'un certain nombre de nos valeurs fondamentales, et pour les musulmans, ça peut conduire au repli sur soi-même, à l'autocensure, ou peut-être à la radicalisation. Est-ce que vous voulez intervenir sur ce sujet, Nadia ?
Oui, alors... les conséquences, elles sont multiples. Hein. Pour la population, c'est vrai, comme disait Mallory, on doit comprendre que les gens ont peur. Les musulmans eux-mêmes ont peur. Vous savez, quand j'apprends des choses qui se passent, je m'y retrouve pas du tout. On souffre doublement parce qu'on dit que ce n'est pas notre religion qui s'exprime là par ces actes terroristes et ces violences ou ces jeunes qui ont envie d'aller faire jouer aux hommes ailleurs. Et c'est choquant déjà pour les musulmans. Donc on a une double souffrance pour la société dans laquelle on vit, on aimerait vivre parce qu'on partage partage les mêmes problèmes. Les femmes et les hommes ici, musulmans ou pas, ou autres, ils ont les mêmes préoccupations. C'est le travail, arriver à l'heure. essayer de joindre les deux bouts, d'éduquer leurs enfants. On a des préoccupations sécuritaires. On veut que notre pays reste sécurisé, reste un pays qui est petit, mais où on parle même au-delà de toutes les des frontières, on parle de la Suisse comme un exemple de démocratie directe et beaucoup d'autres qualités qu'a ce pays. Mais il y a aussi le fait que les musulmans ont une responsabilité, c'est vrai. Ils vivent comme des citoyens chaque jour, mais ils ont une responsabilité d'expliquer. On doit continuer à expliquer, c'est là, comme dit notre fardeau, ou comme on pourrait l'appeler. On continuera à expliquer, ou bien c'est aussi un privilège. Là, au moins on rencontre des gens, on continue à se connaître soi et à connaître les autres. Mais le fait est que l'État doit prendre position, l'État doit statuer sur ces questions où c'est des partis politiques puissants qui manipulent les peuples et qui manipulent. Et là, on a un véritable problème parce que quand on parle aux personnes, elles veulent bien s'intégrer, elles veulent bien communiquer. Mais par exemple, j'ai eu une dame qui me téléphone, elle était très bien avec sa voisine, rien que parce qu'il y a eu la voisine a entendu quelque chose à la télévision, elle ne veut plus manger parce qu'elle a peur qu'elle l'empoisonne pour aller au paradis. Alors on ne comprend pas toutes ces amalgames. Donc elle a vécu avec sa voisine durant des années et là il y a des peurs et tout ça. Je trouve que c'est dommage pour une société qui n'y est pas. J'espère qu'il y aura d'autres études. Là vous avez dit que vous avez une prochaine étude. On verra ce que ça donne, mais on a des craintes. Mais il y a aussi la majorité des musulmans et la population, heureusement, ne sont pas ni racistes, ni xénophobes, ni islamophobes, et c'est avec cela qu'on va continuer à dialoguer, à construire la société de demain et de réussir, Inch'Allah.
Merci beaucoup. Madame Demmler, sur les conséquences de l'hostilité envers les musulmans, de l'islamophobie, qu'est-ce que vous pouvez en dire?
Oui, je peux peut-être en conjoindre avec... Madame, avec quelques résultats de cette étude, parce que ce n'était pas seulement une étude sur les non-musulmans, mais aussi on a rencontré plein aussi dans les écoles neuchâtelois et lucernois qui étaient musulmans. Et en fait, ce qui était assez frappant et choquant et touchant, c'est que parmi ces jeunes, entre 16 et 20 ans, en fait, cette stigmatisation de leur religion était vraiment... Ils ne pouvaient pas s'en dépasser. En fait, tout le rapport à la religion était informé par ça. Et ils ne pouvaient pas faire abstraction. Et ça, c'est quand même assez grave, je trouve. Ça montre comment c'est fort, cette stigmatisation, cette discrimination pour eux. Et en fait, là, vous avez évoqué une fois le terme radicalisation, quelque chose il faut vraiment que je dise, qu'on n'a pas du tout pu observer. Mais il y a quand même différentes réactions de ces jeunes par rapport à cette stigmate. Peut-être je peux vite citer deux, trois. En fait, d'une manière, il y a quand même parmi un grand groupe une recherche de reconnaissance. Donc, ils se voient vraiment complètement d'accord, presque avec les valeurs qu'on leur reproche qu'ils ne partagent pas. Donc, être autonome dans leurs choix, être libre, être individualisé, être pas du tout extrême et vivre sa manière très religieuse, très, très privée, hein, pas du tout visible. Donc, ils sont complètement d'accord avec ces rapproches qu'on leur fait. Ils cherchent, en fait, d'être reconnus. Donc, ils essaient de défendre, être reconnus en tant que tels, parce que, voilà, ils se sont parfaitement, là-dedans. D'autres, encore... Je ne parlerai pas du tout de radicalisation, parce que ça n'a rien à voir. En fait, ce que nous, en tout cas, dans notre étude, on peut voir... Peut-être quand même, après, elles ont une religiosité qui est vraiment, qu'on se construise peut-être plus en réaction envers cette stigmatisation. Donc, ils sont bien sûr très fiers de leur religion. Ils aimeraient aussi vivre comme ils veulent, mais ils se voient aussi complètement en accord avec les valeurs qu'on leur reproche, hein, démocratiques, humanitaires. Donc, à nouveau, ils sont complètement dans le moule ce qu'on leur reproche. Hein. Mais du coup... revendiquent peut-être un peu plus leur religion, et c'est aussi en lien, bien sûr, avec cette stigmatisation. Et après, il ne faut pas oublier, hein, il y a toute une troisième catégorie de musulmans, en tout cas, que nous, on a rencontré dans notre étude. Toi, tu peux sûrement encore compléter tous les résultats là, qui sont complètement séculaires, hein, qui n'ont rien à voir avec les religions, mais qui sont voilà, musulmans par culture, je ne sais pas comment nommer. Et voilà, et qui sont aussi, malgré cela, doivent se positionner envers cette stigmatisation. Pourtant, elles ne sont pas du tout... Et ce ne sont pas du tout concernés, en fait. Voilà.
Merci, Albaslam. Oui. Je peux vous demander d'être un peu bref, pour qu'on ait du temps pour le débat. Merci.
Merci. Non, ce que je voulais vous dire... Non. Tout d'abord, oui, je suis absolument d'accord avec tout ce qui a été dit, donc je ne vais pas réitérer, mais tout discours de haine, quel qu'il soit, génère un discours de haine. C'est tellement simple, mais c'est tellement vrai. Donc, ces discours de haine dont nous parlions tout à l'heure, je veux dire, quel que soit le sens dans lequel ils se déploient par ailleurs, quel que soit le sens, c'est pour ça que moi, je dis, je suis toujours très, très, très ouvert et direct aussi avec les gens de confession musulmane en disant, il faut être intègre et cohérent avec soi-même. Si on lutte contre quelque chose qui est, je dirais, de l'ordre d'un discours de violence, alors on lutte aussi contre les discours de violence qui viennent dans l'autre sens. Ça, c'est une clarté. Donc là, j'ai aucune ambiguïté. J'aimerais que ça soit clair. Par contre, effectivement, je suis quand même très touché de voir que ces discours de haine, déjà, entachent les valeurs fondamentales de mon pays. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, effectivement, ils nourrissent d'autres choses. Radicalisation, peut-être que dans l'étude, on ne l'a pas vu, mais moi, je suis persuadé que ça génère quand même un certain terreau, en tout cas d'abord à une frustration qui, un jour, peut être récupérée. Donc, cette frustration, il ne faudrait pas la laisser se déployer, à mon avis. Et puis, peut-être en conclusion, donc j'ai compris le message. Moi, je pense que l'idéal, c'est vraiment d'avoir une approche de déconstruction de toutes ces approches essentialistes, essentialisation, qui sont tout à fait fausses. Donc, il faut, à mon avis, avoir une approche de raison et aussi de cœur. Je veux dire, d'abord, c'est une valeur christique. Hein, je veux dire, c'est simplement le Christ, Jésus, qui parle de ça, je pense. Et c'est une valeur quasiment, mot pour mot, exactement la même au niveau ontologique au sein de l'islam. Donc, voilà, retrouvons les choses essentielles. Nous sommes d'abord des citoyens suisses, de cœur et de raison.
Merci beaucoup, Mallory. Je vous laisse aussi parler brièvement des conséquences. Merci.
Oui, alors, pour revenir vraiment sur des conséquences possibles, je pense qu'effectivement, il faut quand même remettre... l'église au milieu du village ou la mosquée au milieu du bled. La radicalisation en Suisse, c'est quand même pas encore un sujet. Si on parle vraiment de radicalisation extrême, en Suisse, on a actuellement 65 départs pour les terres du djihad, hein, qui sont partis sur la Syrie, l'Irak, le Mali, l'Afghanistan ou la Bosnie. Une femme jusqu'à présent. Maintenant, cette islamophobie, je suis entièrement d'accord avec vous, favorise un certain terreau, mais ce n'est pas le seul terreau. Il y a aussi les visions fondamentalistes hein, de la religion qui peuvent favoriser ce terreau. Mais surtout, cette islamophobie, en fait, elle est un moyen pour les recruteurs de pouvoir jouer sous une certaine fibre, celle de la victime et du mal-être de certaines personnes, pour pouvoir finalement pêcher certaines personnes qui sont dans une situation marginale, dans une situation fragile, et en appuyant sur ce bouton-là, de peut-être mener à certains déclencheurs. Donc c'est vraiment bien comme conséquence, je dirais, de voir le terreau d'un côté, mais également le moyen... pour certains réseaux, pour certains recruteurs, de pouvoir finalement recruter des jeunes ou des moins jeunes partir sur le chemin de la radicalisation.
Voilà, merci beaucoup. Je vous donne la parole maintenant à la salle. Si certains d'entre vous ont des questions, je vois que des mains se lèvent. Je vais vous passer mon micro parce que...
Je n'ai pas besoin de micro, j'ai une voix. Assez... Non,
c'est pour derrière.
Bon. Une première remarque à faire. Il faut abandonner le terme de racisme. Il est inadéquat parce qu'il y a des musulmans de toutes les races du monde. Alors, il ne faut pas parler de racisme. Parlons d'islamophobie. La deuxième chose que j'aimerais dire, l'islamophobie est en train de se développer, encore maintenant, de plus en plus, à cause des atrocités commises par des groupes comme Boko Haram, comme le Daesh, etc. Et il faut... que les communautés musulmanes raisonnables, comme celle de Suisse, s'insurgent, prennent position contre ces atrocités pour expliquer au public que l'islam, ce n'est pas ça. Et je trouve que la communauté musulmane suisse, de même que la communauté des femmes dirigée par Mme Carmous, est trop silencieuse. Le grand mufti du Caire, il a pris position là contre. Il y a un grand imam de Paris qui a pris position là contre. Il faut qu'en Suisse, les musulmans se distancient de ces atrocités et disent que ce n'est pas leur religion.
Merci beaucoup. Comment est-ce que vous réagissez? Est-ce que vous vous sentez, en tant que musulman, Nadia et Alpaslam, vous vous sentez responsable de toutes les atrocités? C'est à vous de défendre et d'expliquer?
Pour moi, c'est... Alors, sur le plan, si vous voulez, philosophique, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Mais je devrais faire une liste énormissime de choses desquelles je dois m'excuser, me distancier, etc. Et vous savez, au bout d'un moment, c'est barbant. Si vous voulez, parce que j'aimerais juste être connu pour ce que je suis. D'abord chargé de cours, universitaire, économiste, je ne sais pas, footballeur, joueur d'échecs, tout ça. Footballeur, non, hein, vous avez compris. Mais vous voyez, ça veut dire qu'à un moment donné, oui, alors je ne suis pas un hiérarque de l'islam en Suisse. Alors peut-être que les hiérarques, mais vous savez, ce soir, je suis venu pour expliquer exactement ce que vous venez de dire. Donc, si vous voulez, entendez-moi ou entendez-nous. On le dit quand on peut, mais on ne peut pas le dire tous les jours. On ne peut pas avoir un porte-voix, se dire tous les jours, se dédouaner, montrer patte blanche, c'est aussi un peu embêtant. Mais je comprends que ces atrocités qui font peur et qui tuent d'abord des musulmans, avant toute chose, si on quantifie, voyez-vous, tous les Irakiens, les Syriens qui se sont fait massacrer depuis quelque temps par ces fous, hein, alors oui, il faut s'insurger contre toute injustice. Vous avez raison aussi sur la terminologie, vous avez dit tout à l'heure une remarque qui m'a interpellé, mais vous avez raison. Il faudrait changer la constitution, parce que la constitution suisse parle de race, et les races n'existent pas. Vous voyez, donc, le racisme, alors c'est un concept, c'est un mot qui parle des races, etc., mais les races n'existent pas. Il y a une race humaine aujourd'hui, on n'y en a qu'une. C'était aussi un petit clin d'œil pour dire qu'effectivement, il y a des mots qui ne sont pas tout à fait appropriés, mais le but, c'est de définir d'emblée de quoi nous parlons pour essayer de s'entendre sur les concepts fondamentaux.
Je suis d'accord avec vous de... Enfin, malgré tout, aujourd'hui, on est mis en demeure de s'expliquer, de communiquer, puisque une minorité pose problème, la majorité doit s'exprimer. Vous avez raison, on doit de toute façon, puisque si on fait silence, les absents ont toujours tort, donc on va croire qu'on justifie cela. Mais en Suisse, souvent, lorsqu'on communique, la communication ne passe pas. Hein. On envoie des communiqués de presse. Quand on fait des activités, les journalistes ne sont pas toujours au rendez-vous. Donc, en tout cas, dans tout acte qui a été fait, qui a touché, sensibilisé la population, les musulmans ont répondu par des communiqués de presse. Maintenant, si les journalistes ne les... Je pense que, pour notre part, dans notre association, nous n'avons pas à nous plaindre des journalistes. On trouve qu'ils font un bon boulot. Mais j'aimerais bien aussi qu'ils viennent lorsqu'on fait des activités où on participe à l'essor économique et social du pays. Donc, il ne faut pas seulement nous entendre quand on s'excuse ou quand on s'explique, soi-disant, lorsqu'il y a un fait divers, mais il faudrait aussi nous entendre parler lorsque tout se passe bien, quoi, qu'on vient aux portes ouvertes et qu'on parle aussi de la participation citoyenne des musulmans.
Oui, peut-être, mais dans la même lignée de ce que disait Nadia, les associations musulmanes communiquent, en fait, et elles dénoncent. Maintenant, leurs communiqués de presse ne sont effectivement pas relayés dans les médias, mais si vous allez visiter les sites internet des principales organisations musulmanes en Suisse, ils prennent position clairement contre ces différents massacres qui ont lieu au nom de l'islam. Non, c'est ça. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est par les réseaux sociaux et par Internet que ça se passe. Et ces communiqués de presse qui publient sur leur site Internet sont des communiqués de presse. Ils ont été donnés à la presse, qui après ne les relaye pas. Donc c'est finalement aussi souvent le seul moyen qu'ils ont de communiquer par le biais d'Internet et des réseaux sociaux.
Je peux juste ajouter peut-être un tout bref commentaire. Je suis complètement d'accord, mais en même temps, nous, les Suisses, même si je ne suis pas du tout Suisse, mais je parle un peu pour simplifier... On est en même temps aussi, hein, tous, en fait, du coup, rappelés de nous-mêmes, positionnés envers toute hostilité, envers l'islam. Hein. Si on rappelle maintenant à la majorité musulmane de s'exprimer, non, ils ne sont pas du tout d'accord avec l'islam radical, nous aussi, on est invités de s'exprimer tous les jours, hein, qu'on n'est pas du tout d'accord avec toute forme de racisme, je trouve. Voilà.
Bonjour, voilà. J'aimerais bien répondre au monsieur qui a posé cette question sur l'islamophobie. Je pense que déjà pour créer ce terme d'islamophobie, c'est dans le but même de dire aux musulmans qu'ils doivent s'excuser de quelque chose. Voilà. Et puis j'aimerais bien dire aussi, nous, comme musulmans, on ne se reconnaît pas dans Daesh et les gens qui sont intégristes, on ne se reconnaît pas. Voilà, on ne se reconnaît pas sûrement. Et on n'oublie pas aussi qu'on a des enfants. Lorsque nos enfants, ils nous posent la question sur l'islamophobie, ben, qu'est-ce qu'on doit répondre, nous aussi? C'est quoi ce terme qui nous tombe dessus? C'est plutôt de l'islamo-malgame, parce qu'on ne connaît pas l'islam. C'est une jeune religion en Europe. Et puis, il faut chercher, voilà, à comprendre l'islam, déjà. Et puis, que la Suisse aussi forge une histoire par rapport à l'islam, et non pas de piquer la peur des autres et puis l'amener ici. Parce que parfois, on ne peut pas se reconnaître aussi dans cette peur. Peur de quoi? Si on peut penser que la majorité des musulmans qui se trouvent en Suisse, ils sont des gens travailleurs, c'est des mamans qui se lèvent aussi tôt que les autres, c'est des bons voisins, c'est des... aussi on a des beaux enfants... On a, voilà. Et puis moi personnellement, j'ai 4 enfants, et mes 4 enfants, ils se ressemblent pas dans leur façon de comprendre l'islam, dans leur façon de voir la société. Ils sont des Suisses, et je les éduque comme étant des Suisses, pas comme étant des musulmans, parce qu'ils sont musulmans, mais ils sont Suisses avant tout. Donc c'est pour créer un bon citoyen, il ne faut pas, ni moi, comme étant une éducatrice d'enfants, de leur dire, ben, regardez les Suisses, alors qu'ils sont des Suisses, ni la société qui leur dit, mais vous êtes des musulmans, vous n'êtes pas des Suisses. Alors, dans ce cas, il faut une approche entre ce qu'on est comme musulmans, entre ce que la société nous projette. C'est une image qui est erronée. Et c'est nous qui subissons toutes les conséquences. Et j'aimerais bien que maintenant, les gens se réveillent pour se demander et l'avenir de la Suisse. Ah, les musulmans, ils sont là. Ah, les petits, ils grandissent ici. C'est des musulmans suisses. Mais qu'est-ce qu'on doit leur donner comme éducation? Quelle rapproche on peut leur faire pour qu'ils soient des bons citoyens? Et c'est ça la question pour moi, qu'il faut sur laquelle on peut travailler. Voilà. Et ne pas perdre le temps à imaginer, voilà, l'islamophobie et tout ça. Pour moi, c'est une perte de temps. Ce n'est pas un sujet très, comment dire, qui peut nous amener très loin. Il nous fait regresser plutôt qu'il nous fait enrichir. Merci.
Merci beaucoup. Quelqu'un veut intervenir? Igor, tu peux donner le micro?
Oui, merci. Mon sujet est un tout petit peu différent, mais il se rejoint quand même indirectement. J'ai essayé, en écoutant, de me dire, au fond, est-ce qu'il y a quelque chose qui manque? Et je me suis dit que les musulmans en Europe, en Suisse, en Europe, ils se définissent, nous ne sommes pas ça, nous ne sommes pas ça, laissez-nous en paix, on veut être des citoyens raisonnables, on se subordonne, etc. Et on pourrait aussi, c'est ce que je propose un peu, définir une charte, quelque chose de positif du musulman qui est compatible avec la démocratie, une charte qui dit une fois pour toutes, ou une fois pour toutes, mais qui peut être développée en cette sorte que disent, nous sommes des musulmans, et se définir positivement. Nous acceptons les lois des États, les lois civiles des États dans lesquels nous vivons, nous acceptons que la femme est l'égale de l'homme, nous acceptons ça et ça, nous prenons la distance par rapport à ça et ça, etc. Une fois qu'une telle charte serait écrite et que discutée, très largement, elle ne doit pas dire trop de choses, mais juste l'essentiel. Les attaques arrêteraient, parce qu'on se dirait, oui, un musulman qui a cette charte, il est compatible, il est notre ami, il n'y a pas de problème, mais même pour les gens qui étaient un peu islamophobes. Voilà.
Voilà. Donc le présupposé, c'est que l'islam et démocratie ne sont pas compatibles dans votre esprit.
Thank you.
D'accord.
Disons, excusez-moi, je prends juste la parole par rapport au propos qui vient d'être dit. Je le trouve, évidemment, ça part d'une bonne intention, et je comprends l'intention, si vous voulez. Simplement, je ne la trouve pas démocratique. Parce que pourquoi je devrais signer une charte pour dire que j'accepte la Suisse ? Je suis Suisse. Alors, écoutez, non, non, non. Vous dites les musulmans, mais qui les musulmans ? Déjà, la première question. Oui, dites-moi alors.
La charte, c'est pour dire qui je suis en tant que musulman.
Oui, mais...
Et puis la Suisse, c'est accessoire. C'est des droits des pays démocratiques.
Alors, il y a deux choses. Alors, on fait la même chose avec les hindous, les bouddhistes, les évangélistes, etc.
Les chrétiens aussi.
Les chrétiens aussi, qui devraient accepter. J'ai des amis chrétiens qui reconnaissent la suprématie de Dieu avant toute chose. Vous savez, j'ai des discussions philosophiques en me disant, ils me disent Dieu avant toute chose. Et finalement, ils vivent aussi en Suisse et ils sont suisses comme moi. Non, la question, elle est, à mon avis, peut-être l'angle d'attaque du sujet, c'est que l'islam d'Europe doit s'inventer, se réinventer, s'adapter. Ça, c'est une chose. Alors ça, c'est un mouvement qui est intrinsèque à l'islam. Ça, c'est aussi ma vision, je dirais, de l'islam d'Occident. Parce que si vous regardez simplement, on ne va pas faire théologie, je ne suis pas théologien. Mais je suis, disons, interpellé par la question, donc je lis pas mal. Alors, si vous regardez l'historicité ou l'histoire du déploiement de toutes les religions, et je rappelle toujours à toute personne qui me dise, par exemple, que l'islam est une religion d'Orient et que le christianisme est une religion d'Occident, je rappelle que Christ était palestinien avant toute chose. Donc, que, évidemment, le message est venu d'Orient d'abord, et ensuite, il s'est déployé, je dirais, de manière... il s'est adapté ou il s'est ancré, il s'est enraciné dans sa région. Et si vous regardez l'histoire de l'islam, c'est la même chose. Vous avez différentes écoles d'interprétation. L'islam n'est pas du tout monolithique, absolument pas. Ça fait partie du fantasme. Et l'islam s'est déployé, adapté à toutes les géographies, à tous les lieux, avec des modalités distinctes. Mais tout à l'heure, ça a été dit, l'islam en Europe, même si on pourrait en discuter, mais l'islam en Europe de l'Ouest est peut-être une notion récente. Et les musulmans, en tout cas, je dirais les théologiens ou les gens qui réfléchissent sur le sujet vont devoir réinventer, réadapter. Ça, c'est une chose. Mais ça, c'est un mouvement intrinsèque à l'islam, endogène, qui doit se faire. Ça, c'est l'autocritique, j'ai dit tout à l'heure, j'ai utilisé la terminologie. De là, si vous voulez, à passer à... J'ai compris, c'est pour ça que j'ai dit que ça partait d'une bonne intention, mais je dirais, l'acte me fait peur au sens démocratique de faire cette charte. Mais le travail interne de l'islam, il doit se faire. C'est aussi ma vision, si vous voulez, en tant que Suisse de confession musulmane.
Pourquoi une charte fait peur ? Chaque association a une charte.
Mais bien sûr, je suis président d'une association culturelle qui a une charte. Alors, je vous ai déjà satisfait, voyez-vous. Et cette charte est tout à fait, idoine, ad hoc, adaptée, et elle respecte tout. Et nous disons que nous sommes pour l'égalité fondamentale, ontologique des êtres humains, nous le disons. Point. Alors, on a déjà résolu la question. Mais c'est un autre travail qu'il faut faire, à mon avis.
Et cela dit, ce genre de charte, si on va l'appeler comme ça, existe déjà. Et par exemple, l'Union vaudoise des associations musulmanes, qui est donc l'organisation fêtière dans le canton de Vaud, a développé un papier de position dans lequel, justement, il s'explique clairement par rapport à la démocratie, à la violence, au statut de la femme. Ce sont des prises de position qu'on peut trouver sur Internet, évidemment, mais qui sont aussi disponibles dans les mosquées. Donc, c'est clair, ils ne peuvent pas aller les afficher dans la rue, ce ne serait pas accepté. Donc, mais elles existent. Et les associations musulmanes, enfin, le font et prennent conscience de cette nécessité, même si eux-mêmes ne se reconnaissent pas forcément dans ce processus, ils se rendent bien compte que c'est aujourd'hui, malheureusement, heureusement, ce n'est pas à moi de juger, mais nécessaire.
Bonsoir.
Igor.
C'est moi qui ai le micro. C'est bon ? Bonsoir. Alors, tout d'abord, je suis de confession ici. Là.
Ah, ok, d'accord.
D'accord, alors, tout d'abord, je me lève. Non, c'est bon, je reste assise. Non, mais... D'accord. Alors, bonsoir. Tout d'abord, je suis de confession musulmane. J'ai deux remarques à faire. Tout d'abord, je suis un peu lassée, en fait, de chaque fois avoir à m'expliquer sur des faits politiques. Donc, sans arrêt, oui, on me pose des questions sur Daesh, sur ce qui se passe en Irak, en Syrie, sur les attentats de Charlie Hebdo. Et c'est juste que tout le monde n'a pas envie de s'intéresser à la politique, en fait. C'est comme ça. Je veux dire, il y a des humains qui aiment la politique, il y en a qui aiment l'histoire, il y en a qui aiment... Enfin, chacun a sa préférence et a ses activités, en fait. Et c'est pour ça, en fait, que la majorité silencieuse a très peur de s'exprimer. C'est qu'à partir du moment où on s'exprime, on aura tout un tas de choses à expliquer et sur lesquels on doit se défendre, mais on n'a pas forcément les outils pour se défendre par rapport à ces faits. Et on est très ouvert au débat spirituel, je veux dire, posez-moi des questions sur ma spiritualité, sur ma religion, il n'y a aucun problème, je suis ouverte, j'aime ce genre de discussion. Et la majorité aime ce genre de discussion. Je veux dire, notre foi, on la vit au quotidien, et on aime partager cela. Mais justement, on ne s'exprime pas parce qu'on a peur de ces débats politiques. Et on en a juste un peu marre de ces débats politiques. Je veux dire, je ne saurais pas expliquer, moi, ce qui se passe avec Daesh. J'en ai aucune idée. Je ne sais même pas ce que c'est. Enfin, non, j'en ai une idée vague. Mais disons que, de manière générale, je ne saurais vraiment pas expliquer exactement ce qui se passe. Je ne suis pas vraiment calée dans ce domaine-là. Ensuite, ma deuxième remarque, c'était... que si on veut débattre sur l'islam, si on veut discuter de l'islam, il faut qu'on se mette d'accord sur un certain nombre de termes. Les médias sont responsables de beaucoup de problèmes, de beaucoup de divergences, en fait, parce qu'ils mélangent tout. Il y a un grand... Oui, ils mélangent tous les termes. Je veux dire, on entend à longueur de journée djihadistes, wahhabites, extrémistes. Même moi, je comprends plus ce que ça veut dire. Enfin... Moi, je suis musulmane, pourtant, je connais ma religion, je m'informe, j'apprends, mais je ne me retrouve pas dans ces termes. Donc, il faudrait, à partir d'un certain moment, qu'on se mette d'accord sur les termes, qu'on donne des définitions. Et pas seulement du point de vue des médias, mais qu'on pose également la question à des musulmans, et qu'on les définisse selon notre religion, selon notre point de vue. Et puis, voilà, j'arrive à la conclusion.
Il y a des gens qui veulent intervenir là derrière, partout. Il y a beaucoup de gens qui veulent intervenir, monsieur, je suis désolée.
La charte permet...
Monsieur veut intervenir derrière vous, je m'excuse. Je m'excuse, derrière vous, il y a un monsieur qui veut intervenir.
Oui, bonsoir tout le monde. Tout d'abord, je suis noir, comme vous le voyez. Je suis musulman, fier de l'être aussi. Très important de ne pas raser les murs. Pourquoi? Parce que si on rase les murs, ça veut dire qu'on est mal dans sa peau. Et moi, je suis bien dans ma peau et je trouve que c'est hyper important, en ne rasant pas les murs, justement d'expliquer en quoi consiste notre religion, qui au départ est une affaire strictement privée. Alors si on en parle maintenant dans la société, c'est parce qu'effectivement, il y a des événements qui font que en fait, tout le monde en parle. Aujourd'hui, on est là, il y a beaucoup de monde, mais j'aimerais quand même dire, et Mme Carmous l'a dit tout à l'heure, que quand les musulmans organisent, les gens ne se bousculent pas forcément. Je me rappelle, il y a quelques mois, Mme Carmous a organisé à la Chaux-de-Fonds une conférence sur le voile, et je peux vous dire qu'il n'y avait pas autant de monde. Et pourtant, à l'époque, on en parlait énormément dans la presse. Alors, dans cette conférence-là, qui était très bien à la Chaux-de-Fonds, pour vous dire, j'ai rencontré un couple, et puis ce couple est venu avec leur fille qui avait 18 ans. Et puis, c'est des gens que je connais depuis un moment, et puis je leur ai posé la question suivante, quelle est la raison de votre venue ici? Et puis, ils m'ont dit, écoutez, notre fille sort avec un musulman, et puisqu'on ne connaît pas très bien de cette religion, on vient pour s'informer. Et je crois que la peur vient en fait du fait que les gens restent dans leur petit coin, les gens ne veulent pas forcément s'informer, ils croient à ce qu'ils veulent croire, ils n'ont surtout pas envie de comprendre, pour certains en tout cas, en quoi concernent ces religions musulmanes. On ne peut pas, au niveau de notre religion, à chaque fois que ça pète quelque part, qu'on doit prendre la parole, comme l'a dit monsieur, pour dire que nous, on se démarre, on ne va pas tout le temps se justifier. On refuse de se justifier systématiquement. Je vous dis, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en plus, on dit qu'on ne nous entend pas souvent. Je fais partie du groupe de contact musulman et nous travaillons depuis des années justement pour expliquer en quoi consistent ces religions musulmanes. Ça, c'est hyper important. On a fait une conférence de presse. On a dit clairement, suite aux événements qu'on a eu récemment, que nous, on s'était démarqué clairement. Mais je vous assure qu'on n'a pas l'intention prochainement de nouveau de faire une conférence de presse pour expliquer qu'on n'est pas d'accord. C'est clair, on n'est pas d'accord. Aujourd'hui, on ne sera pas d'accord demain. Ce que je voulais encore dire, c'est que en général, donc, dans ces discussions, les gens viennent avec, certains viennent avec beaucoup d'émotions, on parle du voile, on dit que non, c'est pas bien. Récemment, il y avait une conférence au Val-de-Ruz, et puis une dame disait, je ne vous comprends pas pourquoi les femmes mettent le voile. Et la réponse immédiate d'une femme qui était là, qui était voilée, elle disait, mais vous savez, on vit dans une société, il y a des gens qui portent le voile, d'autres qui n'en portent pas, il y a des gros, il y a des minces, il y a des noirs, il y a des blancs. Alors pourquoi on doit être dans une société uniforme? Donc aujourd'hui, le message qui doit être extrêmement clair. Nous, musulmans qui vivons dans le canton, on fait tout pour vivre dans un paix sociale. Mais par contre, on ne peut juste pas accepter à chaque fois qu'il y a quoi que ce soit qu'on nous désigne. Moi, personnellement, je vous dis, j'enseigne, je travaille avec des jeunes. Et quand les jeunes, tout à coup, voient que j'apparais dans la presse, on me dit, tiens, ah, notre prof, on ne savait pas qu'il était musulman. Et ça, je trouve hyper important. On n'a pas le casque de musulman. On doit nous prendre comme on est. Aussi bien Mme Carmousse, qui porte le voile, qu'on doit respecter dans sa foi. En ville de Neuchâtel, vous voyez beaucoup de jeunes qui ont 17, 18 ans, voire même 16 ans, qui portent le voile. La question ne se pose même pas. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, la paix sociale est menacée. Parce qu'on sait très bien que la prochaine fois qu'on va parler des musulmans en Suisse, les prochaines élections fédérales vont approcher, on va tirer à boulet rouge sur le voile. On a déjà parlé de la burqa, dont nous, on s'est démarqué en tant que musulmans. Mais alors, si on touche à notre voile, je vous assure que les musulmans ne vont pas se laisser faire. Qu'on nous laisse juste vivre en toute paix dans cette société. Et nous, on est des Suisses. On est des Suisses et on respecte les droits en Suisse, mais aussi on a des devoirs en Suisse. Mais s'il vous plaît, qu'on arrête juste, qu'on continue à nous stigmatiser. Merci.
Merci. Monsieur Aragno, depuis longtemps, il veut dire quelque chose.
Nous ne sommes pas avantagés en étant derrière quand on lève la main. Alors, je voudrais simplement dire que maintenant, nous sommes dans l'an 1400 et quelques de l'Égir. Donc, l'âge, si vous voulez, de la religion musulmane. 1436, merci de la précision. Qu'étions-nous, nous autres braves chrétiens, en 1436 de l'ère chrétienne? On sortait des croisades, on allait vers la révocation de l'édit de Nantes, entre les deux des théocraties, qui ont massacré beaucoup de monde, également des chrétiens et beaucoup de musulmans. Donc, est-ce que c'est un niveau de développement d'une religion d'en arriver où actuellement certains islamistes extrémistes le sont? Je ne sais pas, mais personnellement, ce que je stigmatise aussi bien dans l'Europe du Moyen-Âge et de la Renaissance que dans le monde actuel, ce sont les théocraties. Et ce sont les théocraties qui font un mal énorme en mettant des idées prises dans une religion comme moyen d'oppression. Pour moi, les théocraties sont parmi les pires ennemis, au fond, de la démocratie. Et si vous regardez, il n'y a pas que Daesh, il n'y a pas que Al-Qaïda. Il y a beaucoup d'États théocratiques musulmans actuellement où on n'aurait pas du tout la liberté de s'exprimer comme on le fait ici dans cette salle. Et c'est une raison aussi pour des gens chez nous de profiter de cette situation pour dire, commencez par être aussi tolérants que nous et après nous le serons vis-à-vis de vous. Et c'est le dialogue que tiennent les gens de l'UDC. Donc voilà, pour moi le problème c'est les théocraties.
Merci
simplement
beaucoup.
Faire cette remarque, on prend un tout petit peu de recul, nous n'étions pas meilleurs en l'an 1436 de l'ère chrétienne.
Aujourd'hui non plus.
Bonjour. J'ai été socialisée en tant que chrétienne et je voudrais vraiment m'excuser pour ce que André Breivik a fait en Norvège, parce qu'il s'est clairement réclamé d'une identité chrétienne forte et fondamentaliste. Donc vraiment, je suis profondément navrée en tant que chrétienne. Enfin, c'était... Boutade mise à part, c'était juste pour montrer, voilà, je trouve que quand on parle de racisme ou de discrimination ou d'islamophobie, la manière simple de se demander si on a raison ou pas de penser ça, c'est d'inverser les rôles, c'est de mettre d'autres personnes ou d'autres mots dans la même phrase, et ça explique beaucoup. Et puis pour compléter sur la question de la charte, vous dire que, et là ça veut être promo, vous dire qu'il existe un document qui est très intéressant à Neuchâtel, qui s'appelle la charte de la citoyenneté, qui est un document qui est destiné à l'ensemble de la population neuchâteloise et qui est distribué à tous les nouveaux arrivants et toutes les nouvelles arrivantes, d'où qu'ils viennent, qu'ils soient suisses ou étrangers, qu'ils soient chrétiens, musulmans, bouddhistes ou sans confession. Et ce document rappelle aux neuchâtelois et neuchâteloises, d'où qu'ils viennent, les valeurs fondamentales et les principes qui ont permis la construction de cette république et canton, qui sont un État libéral, démocratique, laïque et... garant des droits fondamentaux social, voilà, c'est celui-là. Un document que vous pouvez trouver facilement dans l'ensemble des communes du canton. Et je crois que c'est un document qui permet à chacun et chacune de se rallier et qui n'est pas stigmatisant. Parce que même si votre intention était bonne, probablement qu'il y a une partie de stigmatisation quand on demande à un groupe particulier de faire un acte particulier.
Merci beaucoup. Monsieur, j'étais avant. Encore deux interventions, puis après, on sera obligé de conclure.
Bonjour. J'ai une petite remarque. D'abord, merci beaucoup pour ce débat scientifique, intellectuel, mais je relève un autre cas de figure de la réalité. C'est la réalité des jeunes musulmans. Moi, j'accompagne des jeunes musulmans depuis 5 ans dans un projet de la ville de Neuchâtel. Et c'est pas seulement pour les jeunes voilés, parce que là, c'est clair. Il n'y a pas toujours, si j'ose dire même, il n'y a pas de possibilité d'avoir une place d'apprentissage ou bien des fois même un stage avec le voile. Mais aussi pour les jeunes musulmans, c'est-à-dire les garçons, c'est un problème qui touche à la jeunesse entière. Et puis ces jeunes, à un moment donné, ils vont se poser la question sur l'identité, leur identité. Est-ce qu'ils sont musulmans seulement, ils sont musulmans suisses, ou bien ils sont musulmans étrangers? Et puis, ils cherchent une explication à cette exclusion. Et ça, c'est une réalité, ce n'est pas un débat. J'ai pas mal de cas. Des jeunes, à un moment donné, il va rester dans sa coquille, puis il va refuser la société. Et ça, je pense, c'est une responsabilité de nous tous, et surtout des dirigeants. La deuxième chose, c'est un autre cas de figure aussi, c'est cette question de droit à la différence. Alors, on sait tous que la Suisse, elle est connue dans le monde de réussir ce qu'on appelle la gestion des différences. Mais où est le droit à la différence d'un musulman suisse ou d'un suisse musulman? Je relève ici peut-être un exemple. La jurisprudence du tribunal fédéral dans les années 90 a accepté la dispense pour le cours de natation. Après presque 20 ans, elle a refusé. Et puis, le raisonnement, il était entre deux choses. L'intérêt public et le droit à la différence. Et moi, je pense que ça peut être un sujet, un thème de dialogue intellectuel et scientifique, mais dans la réalité, pour les politiciens, il faut trouver une solution pour ces jeunes. Et après, on ne va pas se poser la question sur ce sort de refuge. Une jeune musulmane, elle peut accepter la réalité et rester à la maison, mais un jeune, qu'est-ce qu'il va faire? Une troisième chose, c'est cette question de islamophobie au point de vue juridique. Moi, j'ai une formation juridique, alors je me pose la question. Pourquoi on se pose la question de la confession? On a un état de droit, un ordre juridique qui pose des limites, mais qui pose aussi des principes et des droits fondamentaux. Puis à un moment donné, on va dire, mais pourquoi on se pose la question sur cette chose? dans cette société où même il y a un grand pourcentage sans confession. Alors un musulman, quelle est la différence entre un musulman suisse, un musulman étranger, un suisse sans confession mais d'origine musulmane, et je peux dresser la liste, elle est longue. Si on entre dans ce genre de débat et de questions et de terminologie, on ne va pas s'en sortir. Puis je pense que la société a beaucoup de problèmes à résoudre. Merci.
Merci beaucoup. Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir ou est-ce qu'on passe à la dernière intervention. Tout le monde va se battre pour la dernière intervention. Madame, vous aviez levé la main. Vous voulez toujours... Non, vous voulez plus... Ah, voilà, monsieur. Non, alors, je lui prête mon micro. Ah ben,
il y a encore madame. Alors, les deux.
Merci. Bon, je vais être brève. Donc moi, je ne suis pas suisse du tout, je suis parisienne et puis je viens travailler en Suisse et c'est vrai que je n'ai pas eu de soucis de discrimination ou quoi que ce soit. Et ce débat ne m'a pas vraiment apporté grand-chose, même si c'était très intéressant. Je n'ai pas appris, mais j'ai découvert qu'il y avait des gens qui se posaient des questions et c'est ça qui était intéressant. Sinon, moi, je pense qu'il n'y a pas de peur. Les peurs, elles viennent de partout et en tant que musulmane, je pense que au contraire, plus on avance et plus on se dit « Ah, je peux y arriver et même si je suis musulmane, j'y arrive, j'ai pas de souci de discrimination. » Elle se fait parce qu'on peut être noir, on peut être obèse, on peut être voilà, qui on est, mais c'est une vraie identité et je pense que l'islam, moi, ça m'a apporté plus de force et qui m'a permis aussi aujourd'hui d'arriver quand même assez loin et je suis fière de là où je suis. Mais je pense qu'il faut passer au-delà de cette peur, en fait, même si on n'est pas aidé par les médias, même si je suis en train d'être filmée par Canal Alpina, mais... voilà, on n'est pas aidé par les médias, on n'est pas aidé par les politiques, mais on y arrive, parce que justement, on a cette foi et on peut arriver loin. Donc merci pour ce débat, et aujourd'hui, voilà, il faut être fier de ce qu'on est, et si les gens ont des problèmes, je pense que c'est parce qu'ils ne savent pas et qu'il faut qu'ils se renseignent.
Je pense qu'un des problèmes, c'est surtout qu'on ne sait pas vraiment comment catégoriser l'islam. On ne sait pas vraiment ce que c'est un musulman. Avant, je pense qu'on ne se posait pas vraiment la question parce que ce n'était pas devenu un concept abstrait. Ce n'était pas devenu, on va dire, la problématique. Et maintenant, le musulman est devenu une sorte de préoccupation de société alors qu'on ne sait pas ce que c'est. On a une mauvaise connaissance de l'islam et les seules informations qu'on reçoit, c'est celles, on va dire, de la télévision. Ça veut dire qu'on se situe dans une situation assez problématique où, d'un côté, on nous force à nous poser des questions, parce que le voisin qui, avant, était musulman, mais ça ne posait pas un problème, parce que le concept de musulman, ça ne nous faisait pas tilter quand on le voyait. Maintenant, on y réfléchit. Et on n'a pas on va dire, la question vient plus rapidement que la réponse. On ne sait pas vraiment où trouver les réponses. Et c'est aussi dur d'en donner, puisque bon, l'islam est assez complexe, à différentes origines, à différentes cultures et traditions selon les pays. Et on a de la peine c'est devenu un concept assez lointain. On n'arrive pas à le voir chez l'autre, parce qu'on nous le présente toujours comme étant quelque chose qui se passe dans les pays d'Arabie Saoudite ou les pays, on va dire, assez lointains. Ça veut dire qu'on se retrouve quasiment devant son voisin avec des concepts importés d'on ne sait pas où, alors que son voisin, on nous a dit qu'il était différent, mais on n'arrive plus à répondre à cette question en se disant qui il est. Parce que...
Ouais. Ce que vous voulez dire, c'est qu'avant, votre voisin, c'était quelqu'un de normal. Et depuis que vous entendez parler d'horreur sur les musulmans, vous vous dites, mais il est musulman. Mon Dieu, il est musulman, mon voisin. Donc, qui est-ce? Pas tout à fait.
Je n'ai pas ce problème. Parce que, bon, je les côtoie depuis un certain temps, donc je n'ai pas ce problème. Mais j'imagine, on va dire plus généralement, que lorsqu'on pointe quelqu'un du doigt et qu'on nous force à le regarder d'une manière différente, parce qu'on le présente comme différent, on n'arrive pas simplement à faire abstraction et se dire bon, ben, c'est toujours le même. Il y a toujours une sorte d'endoctrinement quand même.
Merci beaucoup, c'est très intéressant ce que vous dites. Merci. Tu veux arrêter ?
Oui, alors moi aussi, en guise de conclusion, j'ai beaucoup aimé, je dirais, l'approche tout à fait très positive et énergique de cette gentille-dame que je ne connais pas, mais qui a été filmée par Canal Alpha par ailleurs. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est une réponse à plusieurs niveaux. J'ai bien compris, malgré, je dirais, la difficulté primaire, mais j'ai compris ce que vous vouliez dire. L'idée est la suivante. Un, nous sommes des citoyens, ça c'est une chose, pour moi c'est une chose indéniable, nous sommes des citoyens de ce pays ou des pays voisins, ça c'est le plus petit dénominateur commun. Deux, l'islam est en processus de normalisation sociale, moi c'est ma vision des choses, l'islam en Europe de l'Ouest est récente, elle prend sa place, elle prendra sa place, c'est une réalité. Mais deux choses se passeront. Une, c'est le regard de celui qui ne se considère pas de l'islam et qui va regarder cette religion prendre sa place. Et c'est le mécanisme endogène dont j'ai parlé tout à l'heure, cette adaptation aux modalités, pas je dirais dans son ontologie ou dans son essence, mais en termes de modalités d'expression, l'islam prendra sa place, s'adaptera et s'exprimera en Europe de manière européenne. Et l'islam suisse existe, il est déjà là, malgré ce qu'on veut bien nous dire, malgré le fait que dans l'étude on voudrait ne pas les voir, ils sont là, les musulmans. Mais je dirais, en conclusion, je dirais toujours que je suis musulman tant que je percevrai cette islamophobie dont nous avons parlé tout à l'heure. Et je rêve d'un jour où je ne dois plus exprimer ma foi. J'ai aussi apprécié ce qu'a dit le monsieur tout à l'heure, hein, l'enseignant, où soudain les étudiants découvrent peut-être quelques temps plus tard que vous étiez musulman parce que vous exerciez votre valeur, votre fonction citoyenne de prof. Le jour où on me considérera comme je suis, je n'aurai plus besoin d'expliquer ma religion. Tant que ça ne sera pas le cas, je devrais l'expliquer et je l'expliquerai.
Merci beaucoup. Est-ce que je peux vous demander aussi une phrase de conclusion, Madame Demmler ?
Là, je dois vraiment monter.
Vous voulez passer votre tour 5 minutes ?
Oui, peut-être.
Voilà, alors Nadia.
Alors, j'ai aimé tous les témoignages, toutes les questions. Ça m'a enrichi. Alors, je suis pas là pour. J'ai beaucoup appris ce soir et j'ai été émue par la jeune fille qui a parlé avant. Ça va me rester. Merci beaucoup. Par Monsieur Bass aussi et par Madame May. Bravo, hein, j'ai bien saisi. J'espère que beaucoup de personnes se comporteront comme vous de façon à projeter ce miroir qu'on oublie. On oublie souvent de se regarder nous-mêmes. Le musulman, comme tout citoyen, c'est un citoyen, c'est pas une chose. Donc, il faut pas trop se poser de questions. C'est un humain. Et il est ici en Suisse, qu'il soit d'origine suisse, qu'il soit né en Suisse ou qu'il vienne d'ailleurs. C'est un être humain qui aspire au bonheur, à l'amour, à la participation, à la justice, à la liberté, à l'égalité, à la fraternité et à être lui-même, sans devoir être une photocopie de quelqu'un, sans devoir signer à chaque fois qu'il est d'accord avec ça et ça, qu'on lui donne l'espoir de participer et aussi qu'on lui donne l'occasion d'être cette personne qui doit être active. C'est un être humain. L'être humain doit, sinon il meurt, sinon il n'existe plus. Et c'est important qu'il soit, qu'il participe dans la société. Et je trouve que nous devons faire tout pour, au-delà des religions, ne me regardez pas comme musulmane, regardez-moi comme un être humain. Qu'est-ce que je peux apporter avec vous pour construire ce monde auquel on sait qu'il est éphémère, hein. Je ne vais pas rester 200 ans, donc je n'ai pas le temps. Je ne sais pas combien de temps je vais rester. Donc, on n'a pas de temps à perdre, mais en même temps, le temps est important. On doit faire les choses qui se doivent, et surtout celle-là de se connaître mutuellement et d'avoir le courage, parce que souvent, c'est de la paresse ou le courage qui nous manque d'aller vers l'autre. Moi, j'accepte de dialoguer, d'autres aussi, beaucoup de musulmans acceptent de dialoguer, qu'on leur pose toutes sortes de questions, mais c'est ça la richesse, c'est d'être vrai, il ne faut pas être faux. Ce qui compte, c'est d'être vrai. On va vivre, moi j'ai côtoyé des racistes, des anti-quelque chose, qui sont devenus, après, pas anti. Donc c'est vraiment ça vaut le coup, ça vaut le coup de vivre, et surtout dans un pays où on n'a pas besoin de fabriquer d'autres lois ou d'ajouter des initiatives. Notre pays, il est riche. Notre culture est riche en Suisse. Nous devons en profiter et arrêter de nous chamailler pour un rien.
Merci beaucoup.
C'était super, donc ça me permet d'être très bref. Je voulais juste aussi dire, ouais, ça m'a beaucoup touchée, en fait, toutes vos remarques. Je trouvais ça vraiment très agréable, ça a bien résonné avec le public, c'était super. Je ne pensais pas que ça va être comme ça, c'est la première fois que j'ai fait. Et surtout, ça m'a fait beaucoup confiance, je crois, pour le futur, parce que je trouve la société civile est très vivante et très engagée, et je trouvais ça très agréable. Et voilà, je passe la parole.
Merci beaucoup.
À mon tour, alors, oui, je vous remercie, je remercie mes copanélistes, je remercie le public pour vos remarques, pour votre participation. J'aimerais aussi rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, les musulmans sont effectivement là. Et pour reprendre les chiffres de l'Office fédéral de la statistique, aujourd'hui en Suisse, le tiers des musulmans sont de nationalité suisse. Donc c'est vraiment une réalité qui appartient au paysage helvétique. Et je pense qu'il faut penser maintenant avec ces différences, penser avec ce droit à la différence, mais comprendre aussi qu'il faut du temps au temps. Les musulmans en Suisse sont également jeunes, hein, la grande majorité a moins de 40 ans. Donc on est vraiment face à une génération qui est née ou qui au moins a été socialisée en Suisse. Donc on n'a pas à leur apprendre ces valeurs et cette culture suisse, elle est là. Et je pense qu'avec les générations, on va aller vers du meilleur, vers une meilleure compréhension. J'aimerais encore dire que les problèmes que vivent aujourd'hui les musulmans n'ont pas juste à voir avec le fait qu'ils sont musulmans, mais ont à voir avec les rapports des Suisses avec le religieux. Et que j'avais discuté un jour avec une jeune musulmane qui me disait, tu sais, pour moi, c'est pas tant de dire que je suis musulmane qui est difficile, c'est de dire que je crois en Dieu. Et c'est vraiment, en fait, difficile aujourd'hui pour une société qui est majoritairement séculaire, qui a tellement désenchanté finalement son univers, que d'accepter que des gens croient en Dieu, en une réalité qu'on ne peut pas aujourd'hui prouver. Et je pense que ça participe aussi à cette difficulté d'être musulman, comme tous les débats sur l'immigration et l'immigration internationale contribuent aujourd'hui à faire justement de cet être musulman et suisse, d'arrêter de penser les musulmans comme une réalité étrangère et contribuer aussi à cette difficulté d'être aujourd'hui musulman suisse. Mais je suis assez positive pour l'avenir. Mais je suis utopiste peut-être.
Merci. On arrive à la fin de ce café. Je vous remercie tous. Merci aux intervenants. Merci à tous les participants. Je vous donne rendez-vous le 20 mai prochain pour un café scientifique qui a sur un sujet complètement différent. C'est les réseaux sociaux, la publicité sans foi ni loi. Là, il n'y aura pas la foi, hein, rassurez-vous. Voilà. Alors, merci et à tout bientôt.